Atlético Madrid, Leipzig. Il est midi 10 à Paris, 10h10, temps universel, prochain journal dans une heure.
Merci beaucoup RFI pour ce journal. Midi 10 sur la clé des ondes, vous écoutez le plat de résistance. On est ensemble jusqu'à 13h et aujourd'hui on va parler notamment de la nouvelle saison au Globe Théâtre, le théâtre de notre quartier, installé rue Joséphine. Et c'est Johan Lavabre, le directeur du Globe, qui a répondu longuement à Rémi Filton de la Clé des Ondes sur cette programmation donc, qui commence dès cette fin de semaine. Et puis deux éléments de rendez-vous d'actualité de ce jour, de ce jeudi 19 septembre. C'est d'une part une grève du côté de la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, et puis une manifestation appelée par l'Assemblée Générale Féministe de Gironde, manifestation contre le nouveau Premier ministre, contre Macron, contre Le Pen et leur monde, et puis également en soutien aux victimes des violences sexistes et sexuelles. Voilà le programme. Bonjour Chloé.
Salut.
Tu es membre de l'Assemblée Générale Féministe de Gironde, l'AG Féministe, comme on l'appelle plus rapidement. Vous avez lancé avec l'AG Féministe un appel à manifester pour ce jeudi 19 septembre. Le rendez-vous, on le rappellera, mais c'est à 18h30, place de la Victoire, pour une manifestation qui ira jusqu'à la place Saint-Michel.
C'est ça.
Alors, on a vu passer deux mots d'ordre pour cet appel à manifester. Le premier, c'était manifester contre Barnier, Macron, Le Pen et leur monde capitaliste, raciste et liberticide. Est-ce que tu peux nous dire un peu, voilà, quel était l'objectif de départ en lançant cet appel à manifester ce jeudi, Chloé ?
Bah, en fait, juste après la nomination de Barnier comme Premier ministre, on s'était réunis avec l'AG Féministe et on s'est dit qu'il était important de lancer un appel à mobilisation qui soit indépendant des autres forces politiques pour justement exprimer notre colère face à cette nomination et montrer que justement, dans le cadre de ce futur gouvernement, qui sera forcément liberticide, qui va s'en prendre aux droits des femmes, aux droits des travailleurs, aux droits des personnes LGBT, aux migrants, aux personnes racisées. Nous, on est là pour exprimer notre résistance par rapport à tout ce que mettra en œuvre ce gouvernement et dire que face aux propositions qui sont faites par le gouvernement, le futur gouvernement, nous, on prévoit un autre monde. On a envie d'en construire un autre basé sur des relations de solidarité, de partage, d'entraide, où ceux qui font tourner le monde puissent aussi être ceux qui décident et pas l'inverse.
Tu dis ce gouvernement prendra forcément des mesures liberticides contre nos droits, etc. Ça paraît une évidence un peu pour tout le monde et au point que ça devient aussi une sorte d'abattement, j'ai l'impression, pour beaucoup de gens, de dire bon bah voilà, encore une fois, on n'a pas été entendu, on sait ce qui va nous arriver, etc. Comment on mobilise dans une situation comme celle-là, Chloé ?
Alors moi, je pense qu'on a été parfaitement entendu, en fait. C'est justement le choix d'Emmanuel Macron de nommer Michel Barnier. Il a parfaitement entendu qu'une grande partie des gens qui se sont mobilisés pour aller voter souhaitaient des améliorations de conditions de vie, de conditions de travail. Ça, il l'a parfaitement entendu et il n'est parfaitement pas d'accord avec le fait de mettre un gouvernement qui permettrait ou qui dit vouloir permettre des avancées sociales. Face à ce genre d'annonce, lui, Macron, il est parfaitement conscient et il est opposé fermement à ce qu'on puisse revenir sur la réforme des retraites, etc. Moi, je ne dis pas qu'il ne nous a pas entendus, je dis qu'il nous a entendus, mais qu'il nous fait un bras d'honneur. Voilà, et que tout ce qu'on revendique, ce sera dans la rue qu'on va se battre pour l'obtenir.
Mais alors justement, comment on mobilise, comment on donne envie et comment on donne l'espoir aux gens d'y aller ?
Eh bien justement, je pense que... Il y a peut-être une forme d'abattement pour ceux qui croient que les élections, c'est ce qui change le système. Mais on voit qu'en fait, les capitalistes et le gouvernement, ils sont très forts pour s'organiser. Et en fait, pour ceux qui sont conscients que c'est dans la rue qu'on doit se battre, et ben, je pense que la colère, elle est là. Alors, on ne sait pas si on aura des millions de personnes à notre manifestation, peut-être pas encore. Mais en tout cas, nous, on se bat comme si... voilà, parce qu'on n'a pas d'autre choix que de le faire et c'est ça qu'on a envie d'exprimer partout. C'est que même quand ils nous font le jeu de la démocratie représentative, en fait, ils nous arnaquent. Donc on n'en est plus là maintenant. C'est à tout le monde de prendre conscience que c'est dans la rue qu'il faut se battre. que c'est toujours comme ça qu'on a gagné des choses, qu'il faut arrêter dans les illusions électoralistes et que maintenant, on doit y aller. Alors, effectivement, il y a de l'abattement, mais nous, on ne peut pas réfléchir et dire, bon, bah, s'il y a de l'abattement, on ne fait rien. Au contraire, nous, notre rôle, on ne servirait à rien si on restait sur ça. Notre rôle, c'est justement de dire, il y a des possibilités, il faut continuer, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas abandonner. Et puis donner de l'espoir que voilà, on est jeune et ben on a envie de continuer de se mobiliser, on s'arrêtera pas quoi.
Alors il y a un deuxième mot d'ordre qui s'est greffé à ce premier et qui rejoint un sujet qui a pour le coup mobilisé, en tout cas fait parler beaucoup ces dernières semaines, le procès des violeurs de Gisèle Pelicot et le soutien à toutes les personnes victimes de violences sexistes et sexuelles. Avec ce mot d'ordre, la honte doit changer de camp, et cette revendication, ces deux revendications, 3 milliards d'euros et une véritable loi pour lutter contre les VSS, c'est voilà, là aussi une question qui est présente aujourd'hui et que vous avez choisi de rajouter à cette, comme mot d'ordre de cette manifestation, Chloé ?
Oui, exactement. Déjà samedi, il y a eu une mobilisation spontanée un petit peu sur cette question-là qui n'avait pas été organisée par l'AG Féministe. Et c'est pour ça qu'il nous a semblé important, là, dans cette manifestation du 19, de remettre ce sujet-là aussi sur le devant, de dire quand on se bat contre Barnier, Macron, l'extrême droite et leur monde, on se bat aussi contre un système violent contre les femmes, parce que là, en l'occurrence, ce gouvernement-là, ce futur gouvernement-là, en tout cas ce Premier ministre, il s'est déjà exprimé plusieurs fois contre les droits des femmes, contre l'amélioration des droits des femmes, contre l'amélioration de la prise en charge des victimes de violences sexuelles notamment. En fait, ce gouvernement n'en a absolument rien à faire des droits des femmes. Et là, dans la recherche de diminution des dépenses publiques, il va s'en prendre forcément aux services publics et donc directement aux droits des femmes et à la possibilité de lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Donc pour nous, c'est extrêmement important justement de lier les deux sujets. Si au début, on n'avait pas nécessairement pensé à le faire, il nous semble que la mobilisation d'importance qu'il y a eu samedi, le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup de gens qui réfléchissent, qui soient en colère sur ces sujets-là, bah pour nous, c'était évident en fait que c'était notre rôle de l'associer à cette lutte contre le nouveau Premier ministre.
On s'en souvient, il y a juste quelques mois, il y a 2-3 mois, grosse mobilisation, gros afflux de militants, militantes, de personnes qui avaient envie de s'investir pour lutter contre l'extrême droite au moment des élections législatives anticipées. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? L'AG Féministe s'était engagée, il me semble, à deux endroits en particulier. L'Assemblée Générale des Assemblées Générales, l'AG des AG, qui s'était tenue plusieurs reprises au mois de juin-juillet. Et puis dans un collectif inter-orga qui rassemblait à la fois des syndicats, mais aussi des associations, des collectifs. Cette dynamique-là qui est née en juin-juillet, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, Chloé, et où en est la mobilisation contre l'extrême droite et ses idées de manière plus générale ?
Bah, je pense que c'est sûr que ce qui s'est passé en juillet, ça a été quand même une prise de conscience assez violente du risque de l'extrême droite au pouvoir et que beaucoup de gens effectivement ont eu envie de se mobiliser. C'est pour ça qu'on avait proposé l'AG des AG pour que tout le monde, de manière indépendante, qu'ils appartiennent ou non à des organisations politiques, syndicales ou quoi, puisse par en bas s'organiser et dégager des perspectives pour s'inscrire dans la lutte contre l'extrême droite, comment essayer de gagner la bataille idéologique. Je crois que c'est aussi dans cet état d'esprit que l'Inter-Orga s'organise aujourd'hui. Donc on peut dire qu'il y a deux échelles d'organisation, quoi, mais avec que des personnes qui ont la perspective de vouloir renverser la vapeur contre la montée des idées nauséabondes de l'extrême droite. Et aujourd'hui, par exemple, là, l'AG des AG continue de se réunir. La dernière AG en septembre, il y avait un peu plus de 50 personnes qui se sont réunies. Je pense que ça correspond vraiment à une volonté de continuer de discuter, de faire du lien, de proposer des choses. Je crois qu'il y aura des choses proposées par l'AG des AG justement dans le cadre de la manif de jeudi 19. Et concernant l'Inter-Orga, c'est la même chose. Tout le monde réfléchit à des initiatives, là encore, de manière entre organisations pour essayer de qu'est-ce qu'on peut faire, un plus petit dénominateur commun justement pour, malgré nos différences, qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre de discuter d'autre chose que des idées nauséabondes de l'extrême droite et que notre camp, celui des travailleurs par en bas, puisse voir que c'est dans la lutte que les perspectives d'amélioration de nos vies se trouvent. Donc là, en fait, tous ces gens continuent d'être particulièrement mobilisés. Nous, on a envie, notamment dans le cadre de l'AG des AG, que tous ces gens qui se sont mobilisés, par exemple, pour faire la campagne du NFP, puissent continuer d'avoir un espace d'organisation pour poursuivre ça. Et je pense qu'il y a pas mal de gens, justement, qui viennent dans l'AG des AG pour ça, pour trouver des continuer sur l'élan de juillet.
Très bien, ben merci beaucoup Chloé. Juste pour annoncer la suite, les autres journées importantes, il y aura bien sûr le 1er octobre cet appel à la grève lancé par une intersyndicale nationale. L'Assemblée générale féministe sera présente et participera à cette journée.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Pour nous, elle est inscrite dans l'agenda. C'est absolument nécessaire de s'emparer de cette journée, où qu'on soit, où qu'on travaille. Parce que pour nous, c'est pas une journée de rentrée, une journée de mobilisation de rentrée syndicale comme les autres. Elle s'inscrit vraiment dans un contexte particulier où là, il faut montrer qu'on ne lâchera rien vis-à-vis de ce nouveau gouvernement. Donc nous, on s'y inscrit totalement, oui.
Et avant ça, il y a le 28 septembre, la journée internationale pour le droit à l'avortement à l'IVG.
Oui, pareil, justement, on va voir là, parce que dans le cadre de ce gouvernement, futur gouvernement, mais je dis gouvernement, on sait déjà qui est le Premier ministre, les attaques contre les services publics vont être importantes. Et c'est sûr que le droit à l'IVG, qui est déjà menacé en France par les coupes dans les services publics, va continuer encore plus à l'être. Donc on a toujours plus de raisons de se mobiliser. Et puis ce sera peut-être aussi l'occasion de revenir sur d'autres sujets féministes. Donc là, c'est sûr qu'on a un calendrier bien chargé pour montrer qu'on va pas se laisser faire, quoi, et que c'est pas le moment de baisser les bras, qu'on est là et que la lutte continue.
Merci beaucoup Chloé, je rappelle que tu es membre de l'Assemblée Générale Féministe de Gironde et donc rendez-vous ce jeudi 19 septembre à partir de 18h30 place de la Victoire pour une manifestation qui se terminera place Saint-Michel. Ce jeudi 19 septembre, il y a donc un appel à la grève, à la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Pour en parler, pour comprendre un petit peu en quoi c'est important la PJJ et pourquoi ce mouvement de grève, on est au téléphone avec Patrice Rebaud. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Tu es psychologue à la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, et tu es co-secrétaire régional du SNPES PJJ, donc qui est le syndicat national des personnels de l'éducation et du social de la PJJ, qui est rattaché à la fédération, la FSU. On va parler donc de ce mouvement de grève aujourd'hui 19 septembre qui est appelé par vous et trois autres syndicats, puisque c'est en intersyndical, mais peut-être avant dire un mot quand même de ce que c'est votre travail à la PJJ. Donc toi tu es psychologue, mais à quoi sert la PJJ et que faites-vous, Patrice ?
La PJJ, c'est le service du ministère de la Justice qui prend en charge les accompagnements et les mesures ordonnées par un juge des enfants concernant donc les mineurs qui sont considérés comme qui ont commis des actes de délinquance. Donc, ils sont considérés comme mineurs délinquants. Après, on reste un service éducatif. Et notre travail, il y a beaucoup d'unités différentes. Notre travail, c'est d'accompagner et de mettre en place les mesures qui ont été ordonnées par le juge des enfants. À l'encontre à l'intention des mineurs.
Et donc ces mesures, parce qu'on parle de protection, c'est des mesures éducatives, c'est ça ?
Alors c'est avant tout, on reste des services avant tout éducatifs, même si de plus en plus, notamment en tout cas depuis 2 ans, avec des réformes successives, c'est le côté éducatif tend de plus en plus à disparaître. Mais en tout cas, à la PJJ, on essaye, nous, de le maintenir au maximum en considérant avant tout que donc la délinquance, c'est d'abord une mise en danger des mineurs et que notre travail, c'est de les accompagner pour en sortir et que c'est par un travail éducatif et d'accompagnement qu'on essaie de mettre en place. Voilà. Donc il y a avant tout des éducateurs à la protection judiciaire à la jeunesse, il y a aussi donc des psychologues comme moi et de l'association de service social, des profs techniques, voilà, il y a quand même pas mal de professionnels différents qui œuvrent.
Alors, ce mouvement de grève de ce jeudi 19 septembre arrive après deux premières journées de grève qui ont eu lieu cet été en août, les 14 et 29 août, à chaque fois appelé par vos quatre syndicats, donc le SNPES, PJJ qui est rattaché à la FSU, et puis les syndicats de la CGT, de l'UNSA et de la CFDT. Qu'est-ce qui a déclenché ce mouvement-là en plein été, Patrice ?
Alors, peut-être pour reprendre rapidement, en fait, il y a eu depuis le début de l'année, en février, il y a eu un coup de rabot, en fait, après le vote du budget du gouvernement. Il y a 10 milliards d'euros qui ont été retirés au service public, dont 37 millions pour la PJJ. Ça, c'était en février, voilà. Un premier coup de rabot auquel on s'attendait pas du tout. Après, il y a eu au mois de juillet. La direction de la PJJ a annoncé qu'elle retirait, qu'elle avait un retrait de 30 à 40% des moyens des budgets de fonctionnement des services, tout en assurant à ce moment-là à l'ensemble des agents que le retrait de budget n'impacterait pas les prises en charge éducatives auprès des mineurs et de leurs familles.
C'est énorme.
C'est énorme. Après, concrètement, ça a fait disparaître énormément de choses. Qui existait au niveau de la PJJ, et ça a eu un impact de toute façon important sur la prise en charge des jeunes, même si l'idée c'était de pas de retirer, alors quand on dit ce qui est en direction directe des jeunes, c'est-à-dire de pas de retirer de contrats ou de choses comme ça, ou de professionnels qui œuvraient directement au contact des jeunes. Alors on était resté là-dessus en début juillet. Et fin juillet, il y a eu une annonce de la part des directions de la PJJ du non-renouvellement de 500 contrats, en fait, au 1er septembre. Alors 500 contrats, c'est pour la protection judiciaire de la jeunesse, c'est tout bonnement énorme. Sachant qu'en plus, sur ces 500 contrats donc qui étaient nécessaires, ils ont fait ça dans la précipitation. C'est-à-dire qu'il y a des agents avec qui on avait promis que le contrat serait reconduit, qui étaient partis en vacances. Donc, dans la panique totale, ils ont, sans respecter les délais réglementaires pour annuler les contrats, ils ont décidé d'un plan social et de supprimer 500 contrats. À la suite de cette annonce, les organisations syndicales à la PJJ ont interpellé notre direction, et on n'avait pas de réponse à ce moment-là. Comme tout le monde a été très impacté, parce que concrètement, ça bouleverse totalement les services de la PJJ, parce que on est vraiment une toute petite administration, donc je sais pas combien, j'ai pas en tête les chiffres, mais 500 contrats, ça fait grosso modo 50 par interrégion, parce qu'on est par interrégion, c'est énorme. Ne serait-ce que deux contrats sur un territoire, par exemple comme Bordeaux, c'est déjà beaucoup. Sachant qu'il y a déjà une charge de travail qui est très 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 importante. Et donc à cette annonce, il y a 4 OS, donc le SNPES, PJ, la CGT, l'UNSA et la CFDT, qui ont en intersyndicale, qui ont appelé à deux journées de grève, qui ont été, alors que c'était au cœur du mois d'août, avec beaucoup de personnel en vacances, qui ont été quand même relativement pas mal suivis, qui ont permis à ce moment-là de pouvoir sortir, enfin voilà, dire qu'en fait, ils ne voulaient pas du tout faire un plan social. Ils nous ont sorti 3 millions d'euros d'une réserve budgétaire du ministère, qui n'est pas grand-chose à côté de ce qui manquait, pour essayer de débloquer un peu la situation.
Alors, tu disais concrètement, c'est énorme et ça perturbe le fonctionnement. Est-ce qu'on peut dire un petit peu concrètement, peut-être localement, par ici à Bordeaux, en Gironde, qu'est-ce qui se passe pour vous là depuis ces derniers mois en termes à la fois, j'imagine, de charge de travail pour les personnels et puis aussi de ce que ça donne comme accompagnement sur les jeunes, Patrice ?
Oui, on n'a pas les chiffres parce que du coup, ils sont aussi dans l'incapacité de nous donner concrètement les chiffres. Donc, en fait, nous, on constate sur le terrain. Donc on essaie de prendre contact avec nos collègues sur les différents services pour voir quel contrat n'est pas renouvelé, quel contrat est renouvelé. Après il y a comme tu dis, il y a une augmentation de la charge de travail depuis pas mal de temps avec les réformes qui ont été successives pour la justice des mineurs. Concrètement, il y a des centaines de postes qui sont pas couverts sur des services. Donc ça veut dire que il y a des services notamment de milieu ouvert ou des services d'hébergement. Qui ne sont pas capables de prendre en charge les mesures judiciaires qui sont ordonnées par les magistrats. Voilà, donc tout simplement au mépris de la décision du magistrat qui lui décide que tel jeune a besoin de telles mesures, il leur donne et les listes d'attente sur les services qui sont déjà assez conséquentes, eh bien, augmentent avec des délais pris en charge qui sont de plus en plus importants, donc c'est-à-dire des jeunes qui ne sont pas accompagnés dans l'immédiateté, ce qui devrait être la norme, avec un gouvernement qui quand même nous rabâche à longueur de discours que leur priorité c'est la prise en compte de la jeunesse, notamment de la jeunesse en difficulté, et la protection judiciaire de la jeunesse. On accompagne quand même les jeunes les plus fragiles et les plus en difficulté.
Oui, avec aussi les questions sécuritaires qui sont très présentes dans l'agenda politique et médiatique. Dans le communiqué intersyndical, vous terminez en disant « Si on voulait démanteler la PJJ et casser le peu d'attractivité qui restait, on ne s'y prendrait pas autrement. » Est-ce que derrière ça, il y a cette crainte de voir ce service public d'un service éducatif, en fait, qui n'est pas la police, qui n'est pas la répression, la justice, mais qui est aussi, comme tu le disais tout à l'heure, quelque chose d'éducatif et de social, et bien de le voir raboter et malmené et petit à petit disparaître, Patrice ?
Nous, en tout cas, à la protection du judiciaire de la jeunesse, c'est notre crainte. Parce que on voit de toute manière depuis des années des décisions qui sont prises concernant la jeunesse délinquante qui vise à accentuer tout l'arsenal répressif, mais en faisant disparaître de plus en plus tout ce qui est de l'ordre de l'éducatif, avec notamment un alourdissement de la procédure pénale, avec de plus en plus de temps en audience, de plus en plus d'écrits à faire, de plus en plus de rendus compte et de travail administratif à faire, et de moins en moins de temps que les services éducatifs, que les éducateurs, que les psychologues peuvent octroyer auprès des mineurs en difficulté, et ce qui est l'essence du travail qu'on doit faire à la PJJ. Donc est-ce que s'il y a une volonté d'un démantèlement, je ne l'espère pas. Maintenant, en tout cas, les signes qui sont donnés, c'est du coup de ne pas prendre en compte en fait les besoins de la PJJ, les besoins de ces mineurs, les besoins des agents. Puisque ça fait, c'est un coup de plus qui vient taper sur la PJJ, mais ça fait, en tant que représentant au SNPS, nous, ça fait des années qu'on essaie de défendre l'accompagnement éducatif de ces mineurs, d'essayer de sauver ce qui peut être encore sauvé, et que là, en disant que de toute façon la PJJ n'a plus les moyens depuis de nombreuses années de faire un véritable travail éducatif. Là, c'est un peu le coup de plus qui peut-être va mettre la PJJ à terre, sachant que sur les services, les collègues sont épuisés, les conditions de travail sont de plus en plus dégradées, les accompagnements sont de plus en plus difficiles à faire quand on arrive à les faire. Donc c'est vraiment un coup de plus qui vient nous impacter. On a eu quand même beaucoup de soutien depuis le mois d'août de tous les acteurs de la justice des mineurs, que ce soit des magistrats, que ce soit des greffiers, que ce soit des avocats, avec notamment aussi certains syndicats de syndicats de la magistrature, le syndicat de l'avocat de France, qui viennent aussi soutenir, parce que l'impact est aussi sur tous ces corps de métier qui viennent œuvrer en plus de la PJJ dans l'accompagnement des mineurs. Voilà.
Eh bien, merci Patrice Rebaud de nous avoir expliqué tout ça. On rappelle donc que là, il y a un appel à la grève intersyndicale pour ce jeudi 19 septembre à la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Et on essaiera de revenir sur tous ces sujets-là une prochaine fois plus en longueur. Merci beaucoup Patrice Rebaud, je rappelle que tu es psychologue à la PJJ et co-secrétaire régional du SNPES PJJ, qui est donc le syndicat national des personnels de l'éducation et du social de la PJJ et qui est le syndicat majoritaire de la PJJ. Merci beaucoup Patrice.
Merci.
On invite un voisin qui est juste à côté de la radio, rue Joséphine, c'est le Globe Théâtre. Nous sommes en présence de Johan Lavabre pour parler justement de cette programmation 24-25. Et on va commencer à annoncer ça en chiffres, ça fait tourner la tête. 33 spectacles dont 19 créations, 88 représentations, 3 installations immersives, 2 spectacles d'élèves, 2 tables rondes, 18 résidences Comment va votre équipe, Yann Lavabre?
C'est une saison gourmande. L'équipe va très très bien. Après, effectivement, il y a une montée en puissance de la programmation du Globe. On va voir si on y arrive. Mais j'ai bon espoir, en fait. Ouais, je pense.
Donc, ça fait un an que vous êtes au Globe Théâtre. Comment on arrive au Globe Théâtre? Comment on arrive à Bordeaux?
Ah, comment on arrive au Globe Théâtre? C'est un processus. Ça a été un long processus de recrutement avec appel à candidature nationale, présélection par un cabinet de recrutement, ensuite écriture d'un dossier, passage devant un jury avec des représentants de la SCOP, bien évidemment, mais également de la municipalité, du département, de la région, du ministère de la Culture. C'est un petit parcours du combattant pour arriver là. Et puis effectivement, je suis nouveau dans la région puisque je dirigeais précédemment un théâtre en Île-de-France. C'est un nouveau départ. Mais je trouve Bordeaux très accueillante. En fait, je m'y sens déjà très bien.
Et vous vous attendiez à quoi en venant à Bordeaux, notamment au Globe Théâtre? C'était quoi l'univers auquel vous vous attendiez?
C'est pour moi un petit peu un retour aux sources. Mon premier poste, en fait, après mes études, ça a été d'être administrateur du Théâtre Studio, qui est une structure très similaire, en fait, au Globe, implantée à Alfortville, dans le Val-de-Marne, en Ile-de-France. C'était un lieu dirigé par un artiste entièrement dédié à la création théâtrale contemporaine. C'est un univers que je connais bien. Et après, je suis parti dans l'univers du conte, en administrant la maison du conte. Puis j'ai pris la direction d'un théâtre municipal avec des missions un petit peu plus, plus pluridisciplinaires, avec un spectre un petit peu plus large. Et donc là, je reviens dans un univers qui m'est familier, qui m'est très cher, qui est celui de la création contemporaine.
Donc, on va parler de cette programmation. Mmh. Elle est construite en trois parties qui se constituent de cultivons nos singularités, cultivons notre matrimoine et cultivons notre jardin. Mmh. Donc, trois parties, c'est presque une composition. Comment vous avez tenté de construire cette programmation et pourquoi vouloir la diviser avec trois parties distinctes?
Alors, les titres que vous avez cités sont les titres de trois festivals. Il y en a un dans chaque partie. Les parties, les trimestres portent pas de titres ou de thématiques particulières, mais ils abritent effectivement à chaque fois un festival thématique. L'idée d'une saison qui comporte trois mini-saisons, c'est de favoriser en fait un parcours de spectateurs avec pour objectif de fidéliser le public. Donc, par exemple, on va retrouver dans chacune de ces parties les mêmes ingrédients, un spectacle jeune public à destination des enfants de 2 à 6 ans, un spectacle pour le spectre 6-9, 6-10, un autre destiné aux collégiens, un spectacle de danse aussi, par exemple, sur chaque partie. Et ça permet, par exemple, une famille du quartier qui a un enfant de 5 ans, d'aller voir trois spectacles dans la saison avec des propositions suffisamment espacées. Parce que je pense qu'il y a peu de gens qui vont plusieurs fois par mois au théâtre, mais pourquoi pas trois fois dans l'année, quoi. Ça fait des rendez-vous. Et puis, par exemple, pour développer sur cette offre jeune public, on va brasser des esthétiques différentes. Il y aura, par exemple, si je prends le créneau 4-5 ans, on aura une pièce de théâtre, puis au deuxième trimestre, ce sera une pièce de danse, et au troisième, ce sera de la marionnette. Donc ça permet de varier les esthétiques et de faire tout un parcours.
Oui, mais au-delà des esthétiques, il y a quand même, quand on voit les intitulés, vous voulez quand même répondre à certains enjeux sociétaux, ou en tout cas à des questions que tout le monde se pose et qui construit en tout cas votre programmation. Il y a une pensée, il y a une réflexion sur notre devenir ensemble, et peut-être la fonction du théâtre, ça sert à quoi pour vous en fait le théâtre?
Oui, il y a une parole engagée, je dirais un engagement de la parole. Moi, je définis souvent le théâtre, comme de nombreux auteurs et autrices avant moi, comme un miroir du monde. Mais c'est un miroir bien spécifique, c'est-à-dire que c'est un miroir qui réfléchit le monde dans le double sens de ce mot. À la fois, il en renvoie les images et à la fois, il pense le monde. C'est vraiment, moi, je conçois le théâtre comme un outil de compréhension du monde qui nous permet, ça peut paraître paradoxal de dire que c'est un miroir et en même temps que ça permet de changer le monde. Mais je crois sincèrement que le théâtre porte en lui l'espoir d'un monde meilleur et que, voilà, en créant du commun autour des enjeux sociétaux, en posant des questions sans forcément apporter des réponses, c'est pas notre endroit de dire aux gens ce qu'ils doivent penser. Mais par contre, susciter de la réflexion à travers l'émotion des spectacles, ouais, ça me semble important et je crois que c'est un enjeu.
Peut-être qu'on va venir sur le premier thème qui est cultivons nos singularités, qui en fait touche la question de la situation d'handicap. Ouais. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans un théâtre, ou en tout cas se poser cette question-là. Comment ça s'est construit, cette partie-là ?
Ben oui, c'est étrange. C'est-à-dire que voilà, en même temps, je dis que le théâtre est un miroir, et puis c'est un miroir un peu biaisé. C'est un miroir qui refuse de refléter des pans entiers, des composantes entières de notre société. Alors là, c'est la question des artistes en situation de handicap. 13% de la population française déclare avoir une limitation sévère dans une fonction physique, sensorielle ou cognitive. Et puis, bah, on retrouve pas du tout ces 13% sur les plateaux. C'est pas qu'une question de quota, hein, pour moi, mais c'est vraiment une question de répondre à cette définition de ce que doit être le théâtre. Donc c'est un festival qui offre effectivement le plateau à des artistes en situation de handicap dans des productions professionnelles. Hein. Il ne s'agit pas d'ateliers, c'est très bien aussi d'en faire, hein, c'est nécessaire. Mais là vraiment, ce sont des spectacles. Donc ça s'inscrit d'ailleurs dans le cadre du Festival Imago, qui est un festival né en Île-de-France et qui, voilà, avec son mariage avec le Globe, va commencer à prendre une dimension nationale. Et donc, on aura des spectacles à la fois en langue des signes, avec des comédiens et des comédiennes sourds et sourdes. Un spectacle joué par un comédien qui est une personne de petite taille. On aura un bal avec la troupe du Théâtre de Cristal, qui est une compagnie de comédiens et de comédiennes handicapées psychiques. Voilà, toutes sortes de handicap pour effectivement permettre au public de changer le regard, quoi, sur le handicap et de se dire que c'est pas forcément une déficience, quoi, c'est d'abord une différence et que cette différence, elle peut, si on veut l'envisager comme telle, être source de richesse.
En fait, on voit aussi dans votre festival qu'il y a aussi beaucoup de partenariats autour de cette thématique. Je crois qu'il y a le pôle santé culture, Regard. Comment vous construisez, quand vous pensez cette programmation, on a le sentiment que c'est de la co-construction ou en tout cas un partenariat fort. Est-ce que c'est une façon de travailler chez le Globe Théâtre ?
Ouais, tout à fait. Bah, on est alors déjà en interne, on est une SCOP, on est une coopérative. Hein. Donc la programmation, les orientations, tout ça fait l'objet de discussions collectives au sein de l'équipe où on cherche à chaque fois à trouver un consensus. Voilà, c'est pas un fait majoritaire, hein. Il y en a pas cinq qui vont imposer quelque chose aux quatre autres, hein. On essaye vraiment de trouver un terrain commun. Et puis, ben, on travaille aussi comme ça avec l'extérieur. C'est-à-dire que plutôt que de faire chacun son initiative, aussi pertinente soit-elle, mais de manière isolée, j'ai cherché pour chaque sujet quels étaient les partenaires, qu'est-ce qui existait déjà sur le territoire, qu'est-ce que voilà, certaines associations ou structures culturelles faisaient déjà. D'où, par exemple, un partenariat avec le festival Hors Jeu en Jeu, porté par la Ligue de l'Enseignement, voilà, qui vient en partenaire de Cultivons nos singularité. On est plus fort ensemble, hein, que chacun isolé dans son coin, puis surtout sur des sujets de société qui sont importants. Je crois qu'il faut s'obliger à créer les conditions d'une réussite. Ça me semble important. Ouais.
Donc vous venez de parler donc que en fait le Globe c'est aussi un collectif. Peut-être que on peut les citer pour un peu rendre honneur aussi à leur travail et nous dire qui est cette équipe qui travaille avec vous, Yann Lavabre.
Alors on a à l'administration, on a Muriel Bousquet-Mellou qui est également d'ailleurs la gérante de la SCOP, hein, ce qui est pas une mince affaire. À la billetterie et à la communication, c'est Kevin Breuil. À la comptabilité, Anne Latournerie, donc moi-même à la direction technique, Kevin Grain. À l'entretien, c'est Marie-Aurore Chevassier. À la production, Lila Des Haies. À la régie générale, Nicolas Sajou. Et aux relations avec les personnes, Cassandre Nebeau.
Donc je vois qu'il y a il y a pas mal de du genre féminin. Mm-hmm. Et le deuxième thème, c'est aussi cultivons notre matrimoine. Mm-hmm. Comment on aborde ce sujet-là? Comment vous avez discuté pour en faire une thématique importante dans votre programmation?
Ouais, ça fait longtemps moi que je m'intéresse à cette question du matrimoine, donc qui est l'héritage culturel féminin en fait, hein, le répertoire féminin. Ça m'est venu dans mon poste précédent en fait à Guyancourt, où j'avais établi une programmation strictement paritaire. Et je dirais que le développement des relations avec les collèges et les lycées faisait que les enseignants nous réclamaient du répertoire. Et j'étais embarrassé parce que j'avais envie de répondre à cette demande tout en respectant la question de la parité. Et à l'époque, je méconnaissais complètement ce répertoire féminin. Et c'est là que j'ai rencontré l'association HF Île-de-France, hein, donc une association qui milite pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la culture. J'ai rencontré Aurore Evin, qui est une spécialiste du matrimoine et de ce répertoire. Et donc, elle m'a ouvert les yeux sur cette question-là et on a commencé à bosser ensemble. Et voilà, en arrivant au Globe, j'ai souhaité poursuivre ce travail. Alors, c'est un peu un pas de côté, parce que c'est vrai que le Globe, c'est essentiellement du théâtre contemporain. Et là, on glisse du côté du répertoire, mais pour faire découvrir un répertoire totalement méconnu et pourtant exceptionnel. Il y a vraiment des autrices qui ont joué, je pense, un rôle majeur dans l'histoire du théâtre ou dans l'histoire de la littérature. Je pense à Marie de France, autrice de fables exceptionnelles au XIIe siècle, qui a nourri le travail de Jean de La Fontaine, lequel a totalement occulté sa prédécesseuse. Également des autrices... Là, on aura une pièce de Françoise Albine Benoît, une comédie en un acte. C'est vraiment du très très beau théâtre, quoi, qu'on méconnaît. Et je pense que c'est important parce que ça vient, si besoin était, refonder une légitimité, quoi, finalement. C'est ce que dit Aurore. Aurore, elle disait, moi, quand j'étais étudiante à l'Institut d'études théâtrales, je me sentais pas la possibilité de devenir dramaturge ou autrice de théâtre, parce que totalement inhibé par un panthéon masculin, sorte de patriarcat, les grandes figures, quoi, c'est que des hommes, et c'est pas facile de se projeter quand on est jeune femme. Donc on souhaite à travers ça offrir des modèles. Voilà, c'est
donc
ça.
Aurore Evin va vous faire une proposition, est-ce qu'on peut en parler? Oui. Un petit peu?
Oui, Aurore va jouer sa conférence théâtrale sulfureuse qui s'appelle Mary Sidney alias Shakespeare, et c'est un sacré morceau, une sacrée gageure. En fait, elle explore l'hypothèse selon laquelle, vous savez qu'il y a un doute, on ne sait pas très bien qui a écrit l'œuvre de Shakespeare. On sait que Shakespeare était un comédien réel, on le connaît, on a des traces, hein, de sa vie, on a des actes juridiques, des choses, mais on n'a rien, jamais rien qui le relie à l'écriture. C'est assez étonnant. Alors, les chercheurs du monde entier se livrent à des spéculations. Est-ce que ce serait un tel? Et puis voilà. Et il y a cette hypothèse selon laquelle l'œuvre signée par William Shakespeare aurait été écrite par Mary Sidney, donc par une femme. C'est une thèse extrêmement convaincante, c'est un spectacle extrêmement troublant, et ça change quand même considérablement l'histoire du théâtre de se dire que finalement le plus grand auteur occidental de tous les temps est une autrice.
Oui, oui, oui. Je vous ai entendu dire, on va pas féminiser le théâtre, on va le démasculiniser.
Mais oui.
Comment on fait?
On fait... Ouais, pourquoi je dis ça? Parce que en fait, aujourd'hui, on parle de féminisation. Par exemple, le mot autrice. Voilà, c'est Aurore Evin d'ailleurs qui l'a exhumé des registres comptables de la troupe de la Comédie Française. Ce mot autrice, l'Académie Française dit non, ça n'existe pas, c'est un néologisme. Ah, quelle horreur! Ah, puis ça sonne mal, ça fait mal aux oreilles. Bon, mais ça existait en fait. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que dans son élan misogyne, l'Académie française, qui s'est donné pour mission de légiférer la langue, comme si la langue n'était pas quelque chose en mouvement, quelque chose de vivant, ils ont décidé de masculiniser la langue en supprimant des mots féminins. Donc ils ont supprimé autrice, au point que à la fin des années 90, on a inventé auteure. Pour féminiser, alors ça c'est de la féminisation, ouais, effectivement. Mais revenir au terme autrice, qui est un terme légitime, historique. Donc c'est un terme qu'on qu'on employait couramment et aujourd'hui qu'on redécouvre enfin. Mais il y a quelques années, je ne pensais pas qu'on le dirait. Hein. Et aujourd'hui, finalement, dans la presse écrite, dans Le Monde, dans Libération, sur France Inter, un peu partout, on emploie enfin ce mot « autrice ». Donc c'est plus une entreprise de démasculinisation que de féminisation.
Donc, on voit bien que là, on vient de passer ce deuxième thème « Cultivons notre matrimoine » dans le cadre de la programmation du Globe Théâtre. Et une troisième, en tout cas une troisième partie, c'est « Cultivons notre jardin ». Donc, on voit qu'il y a un accompagnement à toutes ces questions de transition écologique, de notre rapport à la nature, et puis une réflexion sur la domination que nous avons sur la nature.
Mais
alors,
oui.
on part sur une thématique très très large là-dessus.
C'est un peu ça l'espoir d'un monde meilleur, hein, finalement. Rompre avec tous ces schémas de domination des hommes sur les femmes, des valides sur les invalides, des humains sur la nature et sur le monde végétal et le monde animal. Hein. Comment se réconcilier, en fait, hein, comment recréer du commun. Et là, effectivement, c'est un festival alors, qui aura lieu en plein air, avec uniquement des spectacles gratuits, qui joueront tous à deux pas d'ici, hein, dans le jardin de ta sœur, au mois de juillet, entre le 5 juillet et le 12 juillet. Cinq spectacles.
Ça fait presque comme un petit festival, ça.
Oui, c'est un petit festival, tout à fait. Ouais, n'ayons pas peur, des mots. Et ce sera à chaque fois des spectacles qui visent à re-questionner la relation entre les êtres humains et la nature. Un premier spectacle de contes et de musique qui va parler de la sensibilité des végétaux. On se rend compte, par exemple, les découvertes scientifiques relativement récentes montrent que les contes et légendes ancestrales qui parlaient de la communication entre les arbres et tout, bah, voilà, tout ça, c'est bien réel. Parce que voilà, l'imagination a précédé parfois des découvertes scientifiques dans ce domaine-là. On accueillera également les fées de l'arbre d'Agnès et Joseph Doherty, un spectacle en chanson. Pareil, quoi, de réconciliation avec la nature. Un spectacle sur les fourmis, hein, un spectacle étonnant de la compagnie du tout vivant. Et puis on terminera avec Spleen, un concert philosophique d'éclat et la timidité des cimes, un spectacle de danse qui parle de cette façon qu'ont les cimes des arbres de communiquer entre elles, de se mettre à bonne distance. Voilà, tout ça pour se reconnecter au vivant. D'une manière joyeuse.
C'est bien de se retrouver en plus au jardin de ta sœur, parce qu'il y a une trentaine d'années, quand ce jardin-là a été, on va dire, édifié, ou en tout cas a été préservé, c'était le centre d'animation, le centre social Bordeaux-Nord, qui était un peu à la manœuvre. Et leur argument, c'était qu'il fallait un espace d'oxygène, c'est-à-dire que tous les immeubles se construisaient il y a 30 ans, tout se détruisait, et il fallait garder un espace jardin. Et donc, du coup, que le Globe Théâtre y remette du sens de l'oxygène et peut-être de la végétation intellectuelle, c'est bien.
Ouais,
c'est bien.
D'autant que le jardin est en pleine réhabilitation actuellement. Hein, la municipalité est en train de le refaire complètement, donc il va réouvrir au public, et on va essayer justement d'avoir aussi un impact très léger, quoi. On en a parlé avec l'équipe municipale. L'idée, c'est pas d'arriver avec plein de matériel et avec une empreinte forte sur le jardin, mais d'essayer de se glisser comme ça dans l'écrin du jardin en jouant dedans et en respectant ce qu'il est. Donc il y a tout un enjeu aussi à ce niveau-là.
Peut-être qu'on va parler du public, c'est-à-dire qu'on est dans le même quartier, on est avec des gens, nous on les croise tous les jours, c'est un petit peu ce quartier. Comment vous le pensez, vous, ce public et ce quartier? Comment vous faites cette médiation qui peut se faire amener des gens au théâtre, puisqu'on le sait bien tous les deux qu'il y a peu de gens qui vont au théâtre.
Et malheureusement, oui.
Voilà.
Oui.
Donc, c'est quoi vos actions à ce niveau-là?
Il y a un vrai enjeu à développer la fréquentation du Globe Théâtre, notamment après quand même une longue période de fermeture, Covid, puis travaux, réhabilitation du bâtiment. On a envie que les gens du quartier viennent, c'est évident. Et puis, comme vous l'avez dit, beaucoup de gens pensent que le théâtre, c'est pas pour eux. C'est dommage, parce que moi, je crois que ça leur parlerait s'ils osaient franchir cette porte. Alors, effectivement, pour les aider à franchir la porte du théâtre, plusieurs actions sont mises en place. Et c'est Cassandre, notamment, qui est chargée des relations avec les personnes, qui pilote ce volet-là. Des actions de médiation dans les écoles, parce que cette sensibilisation, elle commence dès le plus jeune âge. Hein. Le Globe Théâtre est parrain des écoles du Paty et Joséphine. Donc, on travaille beaucoup avec ces deux écoles. Et on espère voilà, que ces enfants qui fréquentent le théâtre dès leur plus jeune âge conserveront cette habitude quand ils seront plus
alors,
grands.
Pour les auditeurs, parrain, c'est pas que vous êtes été choisi par les parents, mais par la mairie pour un dispositif d'accompagnement d'éducation artistique et culturelle avec une carte blanche pour faire des propositions et des offres d'éducation artistique. Ça se construit comment dans ces écoles? C'est quoi votre patte?
Ça se co-construit avec les équipes pédagogiques, hein, évidemment. On se choisit mutuellement dans ce dispositif qui s'inscrit dans le label 100% EAC qu'a obtenu la ville de Bordeaux. Et là, ça s'est traduit. Donc, c'est un projet autour du vivant. Vous voyez, c'est tout à fait connecté à la programmation. Donc, il y a tout un travail qui va être fait avec le plasticien végétal Laurent Cercia, qui d'ailleurs est en train de restaurer le tag végétal emblématique qu'il a fait sur la façade du globe et qu'on retrouve sur tous nos documents de communication. On va travailler à une végétalisation de l'espace de manière artistique, entre l'école et le théâtre avec lui. Et puis, ça se traduit aussi par des ateliers chorégraphiques ou des ateliers de théâtre dans chacune des écoles, toujours sur ce thème. Il y avait eu le bal sauvage avec la compagnie Silex. Et puis, on a travaillé avec les classes de CP l'année dernière sur Max et les Maxi-monstres. Un spectacle qui a réuni les trois classes de CP et la classe Ulysse.
EAC, ça veut dire éducation artistique et culturelle. Ouais. Vous avez des projets avec 50 classes qui représentent 1200 élèves sur 600 heures d'intervention. C'est assez énorme. Et après, quand on divise, ça peut être aussi des petites interventions. Comment vous construisez et quels sont les artistes qui interviennent dans ces parcours d'éducation?
Oui, effectivement, la durée est variable. Hein. Il peut y avoir des projets de 4 à 6 heures. Et puis, par exemple, pour les options de spécialité en lycée, hein, puisqu'on pilote la spécialité théâtre de lycée, le lycée Montesquieu et le lycée Assomption Sainte-Clotilde. Donc là, c'est à peu près 80 heures par classe. D'une manière générale, on envoie en fait les artistes qu'on programme pour garder un lien entre l'action culturelle et la programmation artistique. Alors, c'est pas toujours le cas, parce que ça nécessite, notamment les options de spécialité, un engagement sur le très long terme. Ces actions, oui, c'est un volume assez conséquent. C'est souvent la face cachée de l'iceberg quoi, pour les théâtres. C'est tout ce que le public ne voit pas, mais c'est un travail de fond qui est vraiment essentiel.
Donc vous êtes toujours sur le plat des résistants, sur la clé des ondes. Nous sommes avec Johan Lavabre du Globe Théâtre. Et nous parlons de cette saison 24-25, saison très importante, en tout cas en offre et en proposition. Quelque chose qui nous intéresse aussi, en tout cas parce qu'on les connaît bien, c'est une proposition que vous allez faire avec l'atelier Théâtre des Femmes et avec le collectif Bordeaux Nord. Qu'est-ce qui va se passer avec cet atelier?
Oui, moi j'ai toujours été, toujours travaillé sur ces questions de parité. Et puis là où j'étais en Île-de-France, j'avais mis en place des ateliers d'abord pour des demandeurs d'emploi de longue durée, pour les aider à reprendre confiance en eux grâce aux outils du théâtre. Et très rapidement, en fait, on a travaillé avec un CHRS qui accueillait des femmes victimes de violences. Et donc j'avais en tête de mener des opérations de ce type ici. Et puis il se trouve que, en arrivant, j'ai découvert qu'il y avait cet atelier, alors qu'il ne s'adresse pas en l'occurrence à des femmes victimes de violences, hein, mais un atelier qui vise quand même à favoriser l'expression culturelle des femmes du quartier. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, plutôt que de multiplier des initiatives isolées, chacun de son côté, j'ai dit effectivement au collectif Bordeaux Nord, à Irène Dafonte, qui anime cet atelier, et au centre social et familial Bordeaux Nord, que j'aimerais que le Globe développe sa relation avec cet atelier. Donc, on en accueillera pratiquement toutes les répétitions, les lundis, de 17h à 19h, je crois, ou 19h30. C'est ouvert à toutes les femmes qui souhaitent s'y inscrire, qu'elles aient fait déjà ou qu'elles aient jamais fait de théâtre. C'est pas un problème. Et ça aboutira à la représentation d'un spectacle qui jouera trois fois au mois d'avril, en première partie d'un spectacle professionnel. Ça, je trouve ça important parce que du coup, l'atelier ne va pas jouer que devant les copains, les copines ou la famille, mais devant du public et ça, ça change beaucoup de choses.
Ouais, ça va les rendre légitimes dans leur travail.
Ouais.
Le Globe Théâtre, c'est au 69 rue Joséphine à Bordeaux. Vous pouvez aller directement au théâtre pour aller chercher ce magnifique programme avec toutes les offres et les propositions. Yohann Lavabre, je pense que on vous reviendrait parce que
avec
vous êtes
plaisir.
Juste à côté. Hein, on est à 3 minutes et merci d'être venu.
Mais merci pour l'invitation.
Quand je prends le soleil.
Merci beaucoup à Yohann Lavabre, le directeur du Globe Théâtre. Et vous pouvez retrouver bien sûr tout leur programme du Globe sur leur site internet. Merci également à Rémi Filton pour cette interview. Le plat de résistance est terminé pour aujourd'hui. Demain, à cette même heure, ce sera une rediffusion d'une partie de l'émission Achaïra, l'émission de pollinisation libertaire de la Clé des Ondes. Et puis aujourd'hui, sur notre antenne, ne ratez pas à 19h, climat de lutte consacré au rapport d'Oxfam sur l'adaptation au changement climatique, ou plutôt l'inadaptation actuelle au changement climatique. Voilà, bonne journée à l'écoute de La Clé des Ondes sur le 90.10 et sur laclédesondes.fr.
Il y a le soleil aussi. Ici le soleil métronome, la photosynthèse agit au fond de ma lymphe. Il y a ces rayons enfouis. Quand je prends la parole, je la passe aussitôt. Il faut que tout circule. Ma chérie, j'ai le même mot quand tes cordes s'appellent.